1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Europe 1. On est donc ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question en votre compagnie. Et nous profitons de cette journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme pour parler de la vie quotidienne des 700 000 personnes autistes de France. De la petite enfance à l'école, de la maison au centre spécialisé. Des mamans, des papas sont avec nous pour témoigner des améliorations mais aussi des défaillances que connaît la France sur la prise en charge de ce handicap, de cette maladie, de ce trouble. On va bien définir les choses pour vous et s'entendre sur ces termes pour faire le tour de la question sur ces troubles du spectre autistique. Sensibilisation aujourd'hui avec vos témoignages attendus dès maintenant. Julie, le standard est ouvert.
Oui, le 39-21, 50 centimes la minute. Et pour les réseaux sociaux, Twitter, Facebook,
absolument.
Le hashtag Europe 1.
On relaie tout ça. Et puis à 10h, je vous entraîne dans les coulisses d'une exposition à Paris, inaugurée aujourd'hui sur les robots. C'est à la Cité des Sciences. On explore les progrès de la robotique avec ces machines capables de soulager notre quotidien. Et on verra à quoi ressemblent les robots aujourd'hui. Loin des humanoïdes de la science-fiction, on fait là encore le tour de la question. C'est le sommaire de ce mardi 2 avril jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec cette journée mondiale de l'autisme pour dépasser les idées reçues, et j'accueille en studio avec nous sur Europe 1 Eglantine Émeillé. Bonjour Eglantine.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous pour témoigner de votre quotidien avec votre petit garçon Samy de 13 ans qui est en structure maintenant dans le sud de la France. Hier, vous nous en direz et vous nous en donnerez des nouvelles depuis 2015.
C'est
oui,
c'est ça.
C'est ça, à peu près. Hein, 4 ans et vous avez posté une petite photo de lui, souriant et radieux. Vous soulignez aussi ses progrès et vous allez en témoigner. À vos côtés, Jamila, qui est membre de l'association que vous avez créée, Un pas vers la vie. Bonjour Jamila.
Bonjour à tous.
Alors vous avez un fiston un peu plus grand. Il s'appelle Tariq. Quel âge a-t-il ?
Il a 19 ans.
Il a 19 ans. Il est à Paris ?
Et oui, oui, on est dans région parisienne, il est dans une structure à Montreuil.
Très bien, donc vous nous direz aussi quel est votre quotidien et comment vous avez trouvé cette structure notamment. Florent Chapelle est avec nous, coprésident de la plateforme Autisme Info Service. Bonjour Monsieur Chapelle. Plateforme qui est inaugurée à l'occasion de cette journée de sensibilisation.
Ce matin 9h.
Ce matin 9h, c'est très important et vous nous direz combien elle devrait aider aujourd'hui les parents. C'est la plateforme dont vous auriez peut-être rêvé il y a quelques années encore.
C'est clair.
Que vous mettez en œuvre. Voilà. Joseph Chovanec va venir témoigner, vous le connaissez bien sur Europe 1, il est chroniqueur pour l'émission des Carnets du Monde, et puis nous serons avec un médecin psychiatre, David Gourion, qui nous dira comment il prend en charge ses enfants, ces personnes autistes aussi. D'abord, pour bien s'entendre sur les termes, Eglantine Émeillé, est-ce qu'on doit parler de troubles, de maladies, de handicap aujourd'hui quand on parle d'autisme ?
Alors on parle surtout pas de maladie, on parle de handicap, on parle de troubles. En fait, ce qu'on appelle le spectre autistique, si vous voulez, c'est devenu quelque chose de très très large. Il y a autant de formes d'autisme que d'autistes. Donc c'est un ensemble de troubles complexes, parfois très très variés. C'est difficile et c'est ce qui rend très difficile la prise en charge, c'est que c'est impossible. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans l'autisme, je ne peux pas vous en donner une définition très précise.
Oui, c'est ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a entre 650 000 et 700 000 personnes autistes en France. 3 garçons pour une fille, on sait qu'il y a une prévalence chez les garçons. Mmh. On connaît mal finalement les facteurs déterminants de ce trouble aujourd'hui.
Il y a de la recherche aujourd'hui. Florent, n'hésite pas si tu veux intervenir. Il y a des pistes, on explore la piste de l'environnement, on explore la piste de la génétique. Mmh. Il y a beaucoup de recherches, mais pour l'instant, on n'en est qu'au stade de la recherche.
Est-ce qu'on dépiste mieux qu'avant, en tout cas Florent Chapelle ? Est-ce qu'il y a plus de personnes autistes qu'avant aussi dans notre pays ?
Alors, on dépiste beaucoup mieux qu'avant, et c'est ce qui explique aussi la prévalence, donc en fait l'augmentation du nombre de personnes autistes en France et dans le monde. Il y avait une personne autiste pour 2000 il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on est 1 sur 100 en France, 1 sur 68 aux États-Unis, 1 sur 38 en Corée du Sud. Enfin, ça explose.
Mais on a élargi aussi.
Voilà,
la
mais on a élargi. Voilà, trois choses. On dépiste mieux, on a élargi la définition, c'est ce que vous disiez à l'instant. Une définition assez large qui englobe les 10, donc tout ce qui est dysphasie, dyspraxie, les TDAH, donc les troubles de l'attention. Donc c'est très très large et c'est souvent associé d'ailleurs. On a souvent l'un et l'autre. Hein. Juste pour rebondir, on dit qu'on ne sait pas ce que c'est que l'autisme. Enfin, on a quand même une définition donc de ce trouble neurodéveloppemental hein, qui intervient dès la naissance. On ne devient pas autiste, on est autiste. Donc ça se passe dans le ventre de la maman, c'est pas de la faute de la mère, je le répète, hein. Mais ça se passe dans le ventre de la maman ou avec l'apport du papa. En tout cas, ça se passe dans les premières heures de la conception de l'enfant. Et il naît avec cet autisme et il se développe. Alors c'est là où il faut les prendre en charge très très tôt, ça se développe plus ou moins si on prend correctement en charge, l'autisme va peut-être pas trop se développer. En revanche, si on ne fait rien, ça va être le surhandicap.
Bien sûr.
Et donc, c'est bien un handicap. Et c'est un handicap cognitif spécifique, oui, dont on connaît les signes. Hein. C'est surtout par les signes. Quand une personne éternue, on sait qu'elle est allergique ou qu'elle a un rhume. Okay, et ben l'autisme, il y a trois types de signes de l'autisme. Quand on voit un enfant avoir un problème du langage, s'il n'a qu'un problème du langage, ce n'est qu'un problème du langage. Mmh. Et s'il a un problème du langage, donc un trouble de la communication, plus un trouble de la sociabilisation, donc il a du mal à aller vers les autres, il n'a pas d'empathie, et qu'en plus de cela, il a des troubles du comportement, s'il a cette triade autistique, dans ces cas-là, on dit qu'il est autiste. Et tout cela se cote. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui permettent de savoir si les signes cliniques nous mettent l'enfant dans l'autisme ou pas.
Oui, alors on en sait beaucoup plus aussi sur ces signes cliniques, peut-être qu'avant, je ne sais pas, il y a 19 ans, comment les choses se faisaient, Jamila, et à quel âge vous avez dépisté l'autisme chez votre grand Tariq aujourd'hui de 19 ans ?
Très compliqué, parce qu'au départ, on ne nous parle pas du tout d'autisme. C'est nous les parents qui sommes, on s'en est rendu compte assez tôt, hein, parce que moi c'était mon deuxième enfant,
oui,
et je voyais bien l'évolution de la première, et c'est un enfant que j'ai allaité, donc on avait le contact, on avait tout, rien qui annonçait quoi que ce soit au départ, donc, et c'est venu au moment vers 2 ans à peu près, 18 mois, 2 ans, où là il a commencé à avoir on n'avait plus le regard, un retrait vraiment, plus d'attention, il jouait tout le temps avec les mêmes, des stéréotypies, ce qu'on appelle des stéréotypies, avec des jeux, voilà, et c'est là qu'on a commencé à se poser des questions, et surtout les quelques petits mots qu'il savait dire, ben, ils n'existaient plus, et il n'y avait plus rien.
C'est donc, comme si tout s'était effacé. Tout, jusqu'à ses, voilà, 18 mois, il a évolué, vous aviez le sentiment
quasiment, voilà,
normalement,
ça arrive
souvent.
C'est ça. Et après, plus rien.
Et comment,
plus rien, ouais, plus rien. Mais ce qui est troublant, c'est la petite photo que j'ai de classe, moi, la première année de maternelle avec sa sœur,
oui,
où on le voit, le regard, il est ailleurs, il n'est plus là.
Ouais. Ouais,
alors que moi, avec l'interaction que j'avais, je l'ai allaité longtemps, je vous dis, donc l'interaction, elle était là. Et bah là, plus rien.
Donc on effectivement, en plus, le désarroi et le choc.
Complètement.
Parce que vous n'êtes pas armé pour ça. Et pour comprendre, et il y a 19 ans, comment vous avez compris qu'il y avait peut-être des signes cliniques d'un trouble autistique ? Vous le saviez ? Vous saviez mettre un mot sur ce trouble ?
Personnellement, moi, oui, je commençais à me poser des questions, parce qu'on entendait des choses autour de nous, mais c'est moi qui fais mes propres recherches. Quand on commence, bon, il se trouvait que je faisais je voyais un pédiatre pour ma fille, donc je commençais à en parler, mais on me disait, c'est un garçon, vous inquiétez pas, faut pas trop espérer d'un petit garçon, on va le laisser évoluer à son rythme. Mais non, et quand il a fallu aller à l'école, j'ai prévenu, moi, la directrice, on me dit, vous savez, au départ, vous inquiétez pas, il parle pas en début d'année, à la fin de l'année, on les retient plus. C'était pas ça du tout. Nous, on avait déjà commencé une thérapie, on avait déjà commencé, ouais, cette fameuse thérapie mère-enfant que je déteste aujourd'hui.
Florent, vous en parlez.
Voilà, parce qu'on vous dit rien, mais au final, on vous regarde.
Et on vous culpabilise. Ouais.
Alors moi, sincèrement, j'ai eu la chance d'avoir eu autour de moi, et je remercie mon médecin généraliste, docteur Bocomza, parce que dès le départ, c'est le seul qui a mis ce mot-là d'autisme. C'est un médecin généraliste qui tout de suite m'a parlé de ça. Donc c'est l'effondrement quand c'est un médecin qui vous dit ça. Et après, on cherche, cherche. Et après, on va vers...
Pour ouvrir et fermer la parenthèse que vous évoquez ici, c'est vrai que pendant de longues années, on a pointé du doigt la responsabilité de la maman dans dans ce trouble. En considérant quoi, Eglantine ? Qu'il y avait un problème de fusion,
de non-séparation ? Qu'on n'était pas capable, nous, d'aimer cet enfant au même titre qu'un autre, qu'on n'arrivait pas à entrer en relation. Moi, je trouvais ça fou. Enfin, c'est Jamila comme moi, on a eu un autre enfant, un garçon d'ailleurs.
C'est ça.
Moi, j'avais su aimer le premier, je ne voyais pas pourquoi. Quoi, j'aurais pas su aimer le second. Voilà, et puis toutes les mères, évidemment, ça les fait bondir. Et c'est une violence parce qu'évidemment, il y a des dommages collatéraux énormes.
Alors, l'une comme l'autre, vous aviez déjà un enfant, donc vous voyiez l'évolution de cet enfant aîné par rapport à l'autre petit. Pour vous, Samy, le diagnostic a été posé assez vite
Non, pas du tout. Ça a été assez compliqué. Moi, j'ai eu un bébé qui, très vite, il y a eu des signes qui m'ont interpellée. Si vous voulez, mon bébé, effectivement, ne me regardait jamais. Avait tendance à fixer le plafond quand il voyait une lumière. Et je le trouvais, il ne s'intéressait à rien. Tout bébé. J'avais commencé à faire quelques recherches, mais je voulais me convaincre que tout allait bien. Mmh. Et puis, son état a empiré, mais lui s'est rajouté autre chose. C'est un enfant qui est autiste sévère et polyhandicapé. C'est qu'il a fait un AVC. Et à partir de là, on a essayé de retracer toute son histoire. On l'a d'abord pris en charge sur son handicap dû à son AVC. Et puis, les intervenants qui venaient à un moment ont abandonné parce qu'il développait des troubles autistiques extrêmement sévères, estimaient que c'était plus de son ressort. Donc, pour moi, ça a été un parcours assez compliqué dû voilà, à ces troubles très différents.
Et vous avez expliqué cela dans un documentaire magnifique dont on reparlera. Merci déjà d'avoir un petit peu posé les bases de vos témoignages, de cette réflexion qui nous engage jusqu'à 11h sur, jusqu'à 10h sur Europe 1. Glantine Émeillé, Djamila, Florent Chapelle, juste après la pause, le témoignage de Joseph Chovanec qui va nous dire ce qu'il fait aujourd'hui à Toulouse en cette journée de mobilisation. Il inaugure une fac assez particulière et il en est très fier, je crois. À tout de suite sur Europe.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, nous revenons sur les clichés trop souvent rattachés à ce trouble. Comment dépasser les idées reçues? Wendy Bouchard et ses invités. Nous parlons des différents troubles autistiques aujourd'hui. Handicap, oui. Maladie, non. Trouble neurodéveloppemental, on ne devient pas autiste, on est autiste, nous disiez-vous, Florent Chapelle, co-président de cette plateforme inaugurée ce matin, Autisme Info Service. On vous met tous les coordonnées sur la page internet d'Europe 1, 0800 71 40 40. Vous nous avez parlé de vos enfants, Eglantine Émeillé et Djamila, Tariq, Samy, Galahad. On verra comment justement ils accomplissent ou non une scolarité, comment ils vivent au quotidien. Et j'aimerais que nous accueillions dans cet échange Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour à tout le monde.
On est ravis de vous entendre, Joseph, vous qui participez régulièrement à cette très belle émission avec Sophie Larmoyer sur Europe 1, les carnets du monde. Ça fait un bail maintenant qu'on vous entend.
Oui, tout à fait.
Philosophe, écrivain, voyageur. Et ce matin, vous êtes à Toulouse pour inaugurer un programme avec des formations spécifiques en faculté. Pour les étudiants atteints de troubles autistiques, racontez-nous ce qui va se passer dans cette fac toulousaine, Joseph.
C'est très simple, Wendy. Une université, on peut la rendre inclusive, on peut la rendre accueillante pour tous les étudiants, dont notamment les étudiants autistes. Officiellement, ça s'appelle le programme ASPI Friendly, et ça permet donc à des étudiants porteurs d'autisme de trouver leur place à la fac. Très concrètement, on a dû démarrer quelque part, donc on a commencé à Toulouse. On a une bonne trentaine d'étudiants déjà présents, et une vingtaine d'universités ont rejoint notre réseau. Donc ça veut dire qu'on va bientôt s'agrandir dans d'autres villes de France et puis plus encore. Donc des étudiants fabuleux, hein, dont beaucoup n'auraient jamais pu entrer à la fac, des étudiants qui parfois n'ont jamais pu aller à l'école, qui n'ont jamais été scolarisés, rendez-vous compte, hein, qui maintenant réussissent par exemple en maths ou d'autres cursus encore. Hein. Il faut repenser donc l'ensemble du cursus et tout ça gratuitement parce qu'il ne s'agit pas d'un projet privé mais d'un service public.
Ça, c'est magnifique, avec des maths, de la physique, de l'informatique. C'est vraiment une première hein, dans ce cadre du programme ASPI Friendly. ASPI, Joseph, comme Asperger, c'est ça?
Voilà, alors ça c'est un peu la gêne ou le motif de gêne. En effet, ça fait allusion au nom du docteur Asperger, mais ceci étant, le terme ASPI est à entendre en un sens populaire et toutes les personnes porteuses d'autisme peuvent être les bienvenues, qu'on se soit très clair sur ce point-là. Hein, oh c'est oui. juste un nom administratif. On oh pourrait oui. plutôt parler d'université inclusive pour tout le monde.
C'est bien, et puis vous êtes vraiment dans cet échange, vous Joseph. On vous sollicite d'ailleurs beaucoup pour des ateliers, dans les collèges, dans les lycées, mais vous travaillez aussi avec d'autres enfants autistes qui sont dans des classes intégrées. Moi, j'avais eu la chance à Saint-Michel-de-Picpus, pour citer cet établissement, d'être avec des autistes dans une classe intégrée. Ça se développe, ces classes inclusives, comme vous dites, Joseph?
Ben, ça se développe, mais ça devrait être la norme, juridiquement parlant. Oui. La place d'un enfant autiste ou non autiste, d'ailleurs, c'est à l'école, c'est pas à l'hôpital psychiatrique de Pétauchnok-la-Forêt. Il faut sortir de cette logique de reléguer au fin fond des forêts, loin des yeux, loin du... personnes handicapées dont nous ne voulons pas à proximité. Vous voyez ça, c'est un phénomène scandaleux et il ne faut plus que la France soit championne d'Europe du nombre de personnes placées dans des établissements au fin fond des bois.
Il se passe toutes sortes d'abus
hein, et malheureusement j'ai été témoin personnellement, je passe beaucoup de temps dans les établissements au fin fond des forêts, de choses absolument ignobles et choquantes. Ça existe, il faut le savoir.
Oui, dans les instituts médicaux et éducatifs, par exemple, on avait fait une grosse... Ou les hôpitaux aussi, Florent Chapelle.
Oui, j'avais relaté ça dans un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, ça s'appelle « Autisme, la grande enquête ». Selon une enquête IGAS, qui date d'il y a à peu près 4 ans, le chiffre inspection était affligeant. Oui, inspection générale des affaires sociales. Oui. Ils avaient regardé qu'il y avait en séjour long à l'hôpital, donc les séjours de plus de 30 jours, hein, c'est-à-dire quand on reste 60, 1 an, 2 ans à l'hôpital, enfermé, parfois ligoté. Et bien là, il y a 60 à 70% des personnes qui sont enfermées, qui sont autistes. Mm. Donc rendez-vous compte, finalement, notre hôpital psychiatrique sert à enfermer des gens qui devraient être avec Joseph à la fac.
Et comme Joseph le dit bien, et Jamila, ça vous fait réagir, je vous donne la parole. La priorité des priorités pour tous les parents d'enfants autistes aujourd'hui, c'est l'école. Enfin, ça devrait être l'école.
Ça devrait être,
parce que c'est ça pas si simple, et Glantine, vous allez le dire. Mais oui, vous suivez Joseph là-dessus ?
Mais absolument, et je le remercie, parce qu'il a vraiment bien expliqué les choses, et c'est absolument génial si on y arrive, parce que, oui, où sont les droits de nos enfants ? Oui. Hein, l'éducatif, les soins...
Votre fils n'est jamais allé à l'école ?
Il a fait le cursus maternel, oui. Mais c'est tout. Après, c'était l'hôpital de jour.
Parce qu'après, vous n'avez pas trouvé de structure adaptée, de classe adaptée.
Oh non, mais c'est qu'on nous a fait comprendre que c'est ce qu'il y avait de mieux pour lui, en final. Ouais, donc, et c'était un autisme modéré, sans retard mental. Et 6 ans d'hôpital de jour, avec bien sûr des choses, hein, je ne veux pas dénigrer parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites.
Mais il est passé à côté d'une scolarité qu'il aurait pu faire quand même.
Absolument,
à sa manière.
Quand je vois les méthodes qu'on a aujourd'hui, et moi, grâce à l'école des Glantines, pendant 2 ans, il a fait des progrès en 2 ans qu'il aurait pu faire, mais largement dès qu'il était tout petit. Ouais. Là où c'est encore possible, ou là où on dit c'est urgent de les prendre en charge. Donc moi, je suis très en colère sur le système. Si vous me demandez ce que j'en pense,
on va venir dans le détail,
catastrophique parce que c'est honteux.
Oui.
Leurs droits sont bafoués, tout simplement.
Et Glantine, vous, le petit Samy, il n'aurait pas pu aller à l'école ?
Non, mais je ne souhaite pas le mettre à l'école. Je pense que vraiment, ce n'est pas un lieu pour lui. Mais je rebondis sur ce que vient de dire Jamila. Son fils a 19 ans. On pourrait croire que c'est ce qu'il se passait il y a 15 ans. Oui. Sauf qu'encore aujourd'hui, moi, je vois au sein de notre association, on accueille 60 enfants. Globalement, en maternelle, ça se passe bien. Parce qu'en maternelle, un enfant normal aussi court, crie, bouge dans tous les sens. Donc avec nos autistes, ça se passe bien. Ensuite, on essaye d'avoir cette inclusion scolaire qu'on nous promet. Sauf que voilà, dans les faits, quand on se vante de chiffres aujourd'hui, de plus d'autistes qui vont à l'école, il faut savoir que c'est juste quelques heures par semaine. Un enfant autiste est très rarement intégré réellement les 5 jours dans la semaine. Alors déjà en primaire, c'est difficile, au collège, on ne vous en parle pas, et alors au lycée, là, les chiffres s'effondrent. Donc, on est très très loin de la possibilité pour la majeure partie des autistes de pouvoir aller en fac.
Et voilà, qu'en 2019, on donne la possibilité à ceux qui ont peut-être échappé au cursus scolaire de revenir sur les bancs de l'université.
Super.
Comme le disait Joseph, on vous garde quelques instants encore par ligne, Joseph, avant de vous libérer pour l'inauguration de ce programme à Toulouse. Et nous parlons de cette journée mondiale de l'autisme, de la manière de sensibiliser, de l'accompagnement aussi des pouvoirs publics, les fameux pouvoirs publics sur le sujet, avec l'autisme déclaré grande cause nationale, c'était en 2012, mais il y a des plans autisme qui se succèdent et des présentations de mesures hier, notamment par la ministre en charge du sujet. A tout de suite sur Europe 1 avec vos témoignages. Nous avons déjà Camille et Hervé au standard, Julien.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur l'autisme à l'occasion de cette journée mondiale aujourd'hui. 80% des enfants atteints d'autisme en France ne sont pas scolarisés. Qu'est-ce que cela signifie pour eux et pour leur famille ? Wendy Bouchard.
On a beaucoup de réactions déjà au standard. Myriam de Mérignac est maman d'une petite fille à trouble autistique. Elle a 9 ans et Myriam est infirmière. C'est extrêmement compliqué, dit-elle. Je me bats tous les jours pour avoir accès aux droits. Les placements en structure sont sectorisés. C'est très difficile. La prise en charge, sa petite fille est prise en charge à l'hôpital de jour. C'est ce qu'elle nous dit à l'instant. Nous en parlons avec Florent Chapelle, co-président de la plateforme Autisme Info Service, inauguré ce matin, avec Glantine Émeillé, auteur du Voleur de brosse à dents chez Robert Laffont. Vous racontez notamment l'histoire de ce petit bout de chou, Samy, autiste et né polyhandicapé, qui a 13 ans aujourd'hui. Jamila, maman de Tariq, 19 ans, qui est membre de votre association, et Glantine, l'association Un Pas vers la Vie. Et encore quelques instants avec Joseph Chovanec, qui est avec nous depuis Toulouse. Vous inaugurez une fac qui est ouverte à tous les autistes. Alors évidemment, Glantine Émeillé, tous les autistes ne peuvent pas aller à la fac ni à l'école, mais ça part évidemment d'une très belle
mais c'est une mission, formidable initiative, et j'espère que ce genre de fac ça va se multiplier et que de nombreux autistes pourront y aller. Mais tous les autistes ne pourront pas faire des études supérieures. Il faut être clair et net, c'est un handicap. On ne guérit pas, c'est pas une maladie, on reste handicapé.
On progresse,
mais voilà, avant d'arriver à la fac, en général, il faut aller à l'école. Et pour l'instant, déjà avoir le bac, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que
actuellement, on parle beaucoup de l'inclusion scolaire. On a fait effectivement en primaire et dans les collèges, ils ont instauré des CLIS et des ULIS. Ce sont des unités spécialisées.
Oui.
Sauf que dans ces petites unités où il y a une institutrice qui va accueillir 6, 9 enfants, c'est formidable, mais on regroupe toutes les différences. C'est-à-dire qu'il va y avoir un enfant dyslexique, un enfant dysphasique, et un enfant autiste. Ça n'a rien à voir et je plains l'institutrice, pleine de bonne volonté, mais
oui.
Un autiste a besoin d'une prise en charge individualisée, spécialisée pour lui, donc d'un soutien permanent à l'école pour pouvoir avancer. Dans ces conditions-là, il ne peut pas.
Bien sûr, et il faut des prises en charge, Joseph, vous les connaissez bien aussi, les enfants autistes, adolescents autistes, très très adaptés, individualisés, et vous avez rencontré des personnels aussi, des parents n'en parlons pas, mais des personnels dépassés par parfois la violence, l'agressivité de ces enfants. Est-ce que vous arrivez à apaiser les choses et à comprendre ce qui se passe aussi dans le cerveau de ces petits garçons, de ces petites filles ?
Ah, merci. Ah, en effet, je passe ma vie à faire saltimbanque dans l'autisme, tant que j'y ai un peu consacré ma vie et sacrifié ce qui aurait pu être ma carrière. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut entrer à l'université sans le bac. La plupart de nos étudiants n'ont pas le bac. On peut passer un équivalent qu'on peut adapter pour le profil autistique. J'ai passé ma soirée hier avec un de nos étudiants qui a pour seule mention dans son carnet de santé, autiste sévère,
ouais.
Barré, barrant toute la page en diagonale, vous voyez. Et il est actuellement étudiant tant que chez Aspie Friendly. Méfions-nous des mauvais pronostics. Hein. Les pronostics limitatifs, on n'en veut pas. On veut des diagnostics, pas des pronostics. Et l'une des plus grandes joies quand on est porteur de handicap, c'est de faire mentir les pronostics, justement. Donc, gardons l'avenir ouvert. Et l'université peut être beaucoup plus inclusive qu'on ne le croit. Alors évidemment, tout le monde n'ira pas à la fac, mais la plupart des non-autistes ne vont pas non plus à l'université.
Quelle force de conviction et de caractère vous avez, Joseph, c'est tout à votre honneur et je vous remercie encore pour votre petit passage et clin d'œil à l'antenne. À bientôt, Joseph.
À tout bientôt, belle journée.
Et on vous retrouvera dans les carnets du Monde vendredi, présenté par le dimanche, pardon, à 13h désormais, présenté par Sophie Larmoyer sur Europe 1. Je voudrais qu'on fasse réagir sur quelques sujets importants. Le docteur David Gourion qui est avec nous, médecin psychiatre en ligne et co-auteur des intelligences atypiques chez Odile Jacob. Bonjour docteur.
Bonjour.
On est ici, voilà, Joseph Chovanec est un autiste. Alors, il n'aime pas qu'on dise ce terme-là parce qu'il a l'humilité de vouloir considérer qu'il est comme les autres autistes. Mais autiste Asperger, c'est un terme qu'on entend de plus en plus, qui se traduit par une intelligence supérieure, quand même, on peut le dire ainsi, docteur David Gourion ?
En tout cas, qui se traduit par un profil qui correspond à des personnes, des enfants qui vont souvent acquérir le langage très tôt et avoir un langage très Hans Asperger qui a décrit les appeler mes chers petits professeurs, c'est-à-dire des enfants qui très très tôt ont un langage extrêmement élaboré, extrêmement pointu et peuvent développer des capacités. Pas tous les enfants et toutes ces personnes sont très différentes, c'est ça qu'il faut retenir. Je voudrais faire attention parce qu'il y a des sortes de stéréotypes, on pourrait imaginer que tous les autistes Asperger sont pareils.
Oui.
Non, il y a des formes ultra différentes, vraiment. On est en train de se rendre compte aussi que l'autisme Asperger chez les femmes est souvent non diagnostiqué parce que ce sont des formes souvent plus légères ou en tout cas elles ont des stratégies de camouflage, elles arrivent à le masquer et bien souvent du coup le diagnostic n'est pas fait. Mais en tout cas oui, un profil un peu particulier et vraiment très, très riche à la fois dans les capacités parfois hors du commun, de mémoire, de fusion des sens.
Et Florent Chappelle, je vous donne la parole après David Gourion, et Florent Chappelle qui n'est pas sans souffrance quand même.
La souffrance est grande pour les autistes Asperger. Quand on se rend compte, moi chez mon fils, il n'y a pas une parfaite conscience de son handicap. Il a 13 ans, il est verbal, mais il n'a pas parfaitement conscience de ce qu'il vit. En revanche, chez les personnes Asperger, oui, elles savent qu'elles sont différentes, elles s'en rendent compte, parfois avec ou sans diagnostic. Et donc oui, il y a un taux de suicide, malheureusement, et il y a une souffrance absolument atroce.
On se retrouve juste après la pause, David Gourion. Docteur, vous nous direz ce qui se passe aussi dans le cerveau, si ça a une implication sur le cerveau, sur ces troubles neurocomportementaux, les spectres autistiques, les troubles des spectres autistiques aujourd'hui, en cette journée de sensibilisation. Églantine Émeillet, je vous donne la parole juste après la pause, ainsi que Jamila à vos côtés. Et vos commentaires. Hervé veut réagir, il a monté une structure justement en France pour accueillir ces autistes. À tout de suite sur Europe 1. Daniel également veut réagir.
intégrer les autistes dans notre société. Wendy Bouchard, c'est le sujet du tour de la question aujourd'hui.
Je vous représente nos invités dans un instant, parents pour la plupart qui témoignent aussi de cette vie au quotidien, de diagnostic ou de l'errance de diagnostic. Alors, nous espérons qu'il y en a de moins en moins. Docteur David Gourion, vous êtes psychiatre et vous avez coécrit Éloge de l'intelligence atypique. Vous connaissez bien les troubles du spectre autistique qui touchent aujourd'hui 1% de la population en France, c'est-à-dire 700 000 personnes. Pas de certitude sur la cause, il n'y a pas de cause unique identifiée, peut-être un terrain génétique, on va y venir. En tout cas, des définitions très distinctes et autant de cas d'autisme quasiment que de personnes autistes, vous nous le disiez, Églantine Émeillé. D'abord sur les diagnostics, est-ce qu'il y a encore des errances de diagnostic ou une meilleure prise en charge, très clairement, David Gourion, depuis quelques années maintenant?
Alors, les choses progressent, mais s'il fallait situer globalement, le sentiment reste quand même d'un retard de la France. Et en termes de qualité des diagnostics et en termes de qualité des prises en charge, je pense pouvoir dire que par rapport à d'autres pays, nous avons environ 30 ans de retard.
Et pourquoi? On a voulu cacher ces maladies?
C'est handicap. À ceci près qu'à certains endroits ou pour certaines équipes, les prises en charge sont très très bonnes. C'est-à-dire on est dans un système qui est extrêmement hétérogène. En fonction du secteur géographique dans lequel vous allez vous trouver, vous allez pouvoir bénéficier d'un diagnostic de bonne qualité précoce. Dans d'autres, vous recevrez, si vous n'êtes pas sur le bon CMPP, vous recevrez un non-diagnostic ou une prise en charge attentive. Donc on a un problème en France qui est l'hétérogénéité de la qualité des prises en charge.
Oui, il faut en moyenne 446 jours de délai d'attente pour obtenir un rendez-vous de dépistage quand même en France. Vous parliez de retard, je crois qu'en effet on y est. On parlait de troubles comportementaux, David Gourion. Est-ce qu'il y a une partie du cerveau qui est touchée par ces troubles du spectre autistique, comme l'on dit?
Non, en fait, on n'observe pas de lésion dans le cerveau des personnes autistes. Hein. Leur cerveau n'est pas abîmé, au contraire, il est même plutôt hyper connecté. Ce qui a été montré, c'est finalement plutôt une augmentation de la densité des neurones et des connexions entre neurones dans certaines régions, et en particulier dans les régions du cerveau qui traitent la mémoire visuo-spatiale, qui pourrait expliquer les surperformances qu'on observe chez certains autistes dans ce domaine-là. Donc c'est plutôt une connectivité un peu différente qui s'est mise en place au cours du développement embryonnaire. Et pour des raisons essentiellement génétiques, ça a été bien montré, mais peut-être aussi multifactorielles et avec des facteurs environnementaux. Mais aujourd'hui, on parle vraiment de connectivité différente, d'où le terme de neurodiversité, l'idée étant de sortir du modèle maladie et d'être vers un modèle plus alternatif qui dirait finalement les autistes ont des forces dans certains domaines, ont des fragilités dans d'autres, notamment les interactions sociales. Mais finalement, c'est un mode de fonctionnement différent qui n'est pas nécessairement qu'une maladie.
Oui, mais il faut apprendre, c'est vrai, à percevoir la réaction, les émotions. Est-ce que quand vous regardez Samy dans les yeux aujourd'hui, il a 13 ans, vous le comprenez profondément? Vous avez appris à le comprendre, Églantine,
ou pas? Non, je suis sa maman et je le comprends sans doute mieux que beaucoup de personnes autour de lui parce que je suis à l'affût et que je connais son fonctionnement le mieux possible, le moindre de ses mouvements de paupières ou de ses cris. Mais non, je rêverais d'avoir le mode d'emploi. Il y a encore beaucoup de ces réactions qui me semblent complètement inappropriés, inattendus, qui me surprennent et je ne sais pas pourquoi. C'est pas simple.
Oui, il y a un moment bouleversant dans ce documentaire que vous lui aviez consacré, un si long combat, c'était sur France 5 en 2014, quand vous allez ailleurs, dans le sud de la France, découvrir cet établissement où il se trouve aujourd'hui. Vous dites, voilà, est-ce que je le laisse? C'est terrible. Imaginez qu'on laisse un bébé de 8 ans et qu'on s'en va à 800 km. Et vous dites à la personne en face de vous, moi, je sais pas ce qu'il ressent. Je sais pas si ce soir, il va pas avoir envie de me voir ou demain matin pareil.
Je continue à me poser la question. Je sais, d'après le personnel hospitalier, quand j'y vais, on me dit le lendemain, après votre départ, il est bien et il lui faut à peu près 24 heures et on sent qu'en fait il réalise que vous êtes parti. Oui. Et là, souvent, il faut quelques jours où il est difficile. Oui. Mais après, j'ai beau l'observer énormément. Vous savez, ils ont des comportements. Moi, par exemple, hier, j'étais en train de me promener avec lui. Il faisait très beau. C'était un chemin qu'il connaissait très bien. Et puis, tout d'un coup, en gros, tous les quatre pas, il s'arrêtait. Il faisait un demi-tour sur lui-même. Il faisait semblant. Je croyais qu'il voulait repartir en arrière. Puis finalement, il repartait en avant. Et c'était non-stop. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je ne comprends pas. Donc, je passe mon temps à me dire, est-ce que je dois renoncer à aller là?
Oui,
est-ce que
je... suis, ouais.
Mais il ne manifeste pas non plus la violence qu'il est capable de manifester quand vraiment il refuse quelque chose. Décrypter leur comportement, c'est très, très compliqué.
Oui, c'est...
Alors, on est sur du polyhandicap.
Sur du polyhandicap.
Je tiens à le préciser quand même, voilà, pour les auditeurs. on est sur un cas grave et très particulier.
Oui, mais alors je tiens à préciser que je suis présidente d'une association dans laquelle on a beaucoup d'enfants, dans une école que je vois régulièrement. Il y a plein de ces comportements-là.
Oui, bien sûr.
Et les parents sont aussi désemparés face au même type de comportement qu'on ne comprend pas.
L'association Un pas vers la vie, et sur le comportement, la connectivité dont parlait David Gourion, le docteur, la difficulté de l'interaction, comment ça se passe, Jamila Saïdi, avec Tariq, qui a 19 ans, votre fils?
Ben moi, je dirais qu'au départ, c'est presque animal au départ. Hein. Franchement, c'est
animal.
Oui, parce que on passe son temps à observer. C'est beaucoup d'observations, essayer d'interpréter chaque geste, chaque cri. Parce que moi, il parlait pas au départ. Mmh. Donc, et c'était fusionnel. Je reconnais aujourd'hui qu'on est très fusionnel avec mon fils. Donc, on se regarde, on se comprend, je le comprends et je sais exactement ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça que je parle de l'aspect animal, parce que quand il y a pas les mots, il n'y a pas d'autre alternative. Bien donc, sûr. C'est que de l'observation, c'est que de l'analyse et de l'interprétation. Et des fois, on se trompe. Mais je pense pas trop me tromper et je le connais par cœur. Chaque mimique de son visage, je sais ce que ça veut dire.
Et
chaque cri.
Et aujourd'hui, il a progressé puisqu'il formule, il verbalise certaines choses.
Absolument, ben grâce à l'école d'Églantine dès le départ, puisque 6 ans d'hôpital de jour, mais on pense pas à proposer une orthophoniste, par exemple. Il a fallu que moi je mette en place ça dans le privé. Ensuite, Églantine a eu
la
professionnelle. Ah oui, un recrutement génial de différents professionnels, dont une éducatrice qui a pensé au Macathon, qui est un système de communication qui utilise donc le langage des signes, oui, le pictogramme et le mot. Et là, ça a été une renaissance, oui, carrément.
Mais on a le sentiment quand même que c'est grâce à ces initiatives, à ces associations comme la vôtre, Un Pas Vers la Vie, ce système D que vous en êtes sorti aussi.
C'est que ça.
Ouais, d'où la nécessité de cette plateforme que vous inaugurez aujourd'hui. On va en parler juste après la pause. Florent Chappelle, Autisme Info Service. Je remercie le docteur David Gourion et je recommande son ouvrage chez Odile Jacob, Éloge des intelligences atypiques. On est ensemble sur Europe 1 pour cette journée de mobilisation et de sensibilisation sur l'autisme. 700 000 personnes autistes en France, près de 200 000 enfants, et on en parle dans le détail. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
C'est la journée mondiale de l'autisme, une journée de sensibilisation pour mieux comprendre ce trouble.
Et nous sommes avec nos invités à l'occasion de cette journée. N'hésitez pas à réagir au 39-21. Églantine Émeillé, présidente de l'association Un Pas Vers la Vie, maman du petit Samy, animatrice, comédienne que vous connaissez bien sur les antennes de France Télé notamment. Jamila Saïdi, membre de cette association et maman de Tariq, 19 ans. Et avec Florent Chappelle, aujourd'hui est inaugurée, ça y est, c'est fait, à partir de 9h, la plateforme Autisme Info Service. Voici le numéro 0800 71 40 40. C'est une ligne gratuite pour aider les parents comme vous auriez aimé avoir été aidé à l'époque.
Oui, c'est cela. Oui, c'est pour les orienter. En fait, il y a trois fonctions à cette plateforme. La première, c'est l'écoute. Je pense que le drame du diagnostic ou du non-diagnostic, c'est l'isolement des parents. Il y a souvent divorce, il y a souvent isolement professionnel. Les amis fuient parce que quand votre enfant crie et casse tout à la maison, ben forcément, les copains ne restent pas toujours. Donc, il faut savoir parler. Alors, on se dirige en général vers les associations qui sont super bienveillantes, mais on ne sait pas toujours où trouver une association, comment ça fonctionne. Donc, il faut aiguiller un petit peu ces gens qui sont dans tout le monde. Et puis, pas qu'au début du parcours. Ça peut être une maman de 60 ans qui se demande ce qu'elle va faire de son enfant de 40, quel placement, comment, quoi. Bon. Donc, c'est tout au long de la vie qu'il faut de l'écoute. Après, il faut de l'information. Parce que l'information, il y a beaucoup de fake news. On a vu ce matin ce qui est écrit dans le Parisien.
Il y a un grand article dans le Parisien qui dénonce les charlatans qui font leur sel et leur argent sur le dos des autismes. On parle de charlatans de médecine, de santé, avec des traitements ineptes.
C'est ce que disait Sophie Cluzel au lancement de la plateforme. Elle parlait de fake news. Et effectivement, les fake news, ceux qui disent « arrêtez la vaccination de vos enfants, vous verrez, c'est la faute ». Aujourd'hui, il n'y a pas une étude dans le monde qui montre un lien entre vaccination et autisme. Voilà, je tiens à le dire à nos auditeurs. Il n'y a pas une étude. Donc ça, il faut effectivement mettre en garde les parents. Et nous, on renverra vers Vaccin Info Service. C'est aussi une plateforme de téléphonie sociale qui expliquera qu'il n'y a pas de lien entre les deux avec des arguments scientifiques. Après, il y a d'autres choses, hein. Il ne faut pas tout mélanger non plus, parce que là, il y a un peu un tout droit dans cet article, entre ce qui est de l'ordre de la certitude et puis ce qui est de l'ordre du protocole. Par exemple, évidemment qu'il ne faut pas utiliser de diurétique aujourd'hui, il ne faut surtout pas le faire, hein. Même pas avec un médecin.
Pourquoi on utilisait des diurétiques ?
Parce qu'en fait, ça ferait baisser le taux de chlore dans le cerveau et ça permettra à l'enfant de limiter
lavages,
ses troubles
quoi.
Du comportement. Ouais. Mais en revanche, il y a une équipe INSERM aujourd'hui dans le sud de la France, et il y a même une start-up qui s'est montée très sérieuse, financée par plusieurs laboratoires pharmaceutiques, qui sont en train de penser un protocole pour justement industrialiser ce genre de médicaments qui pourraient faire baisser certains troubles du comportement très sévères chez certaines personnes.
Et c'est vrai que quand des parents sont dans le désarroi, vous êtes prêts à vous tourner vers beaucoup de possibilités, des remèdes soi-disant, mais des remèdes miracles, des hypnotiseurs, des magnétiseurs. Vous y êtes peut-être laissé aussi aller.
Moi, je ne dirais pas tout ce que j'ai fait, mais j'ai honte de certaines choses. Mais il y a un moment, on est tellement paumé que on fait des tas.
Voilà, ça a été le cas à l'époque dans le sida, ça a été le cas dans le cancer. Quand vous avez un enfant qui a une leucémie rare et que vous savez plus quoi faire, vous êtes prêt à aller au Japon, en Italie, en Allemagne, n'importe où, pour suivre n'importe quel protocole. Bon, alors,
donc, il faut faire confiance aux institutions, aujourd'hui, qui sont défaillantes
on a un super comité scientifique avec le professeur Bourgeron de l'Institut Pasteur, qui est le généticien qui a découvert le premier gène de l'autisme.
Oui.
On a aussi le professeur Marion Le Boyer et le professeur Richard Delorme. Donc, avec ces trois professeurs et tout un groupe derrière, on pourra orienter les familles et leur dire ce qu'ils peuvent faire de ce qu'ils ne peuvent pas faire. D'accord ?
Donc, il existe une prise en charge médicale pour les troubles
alors,
d'autisme ?
Non, il n'y a rien.
Jamila, par exemple, votre fils ne prend pas de traitement aujourd'hui ?
Alors, malheureusement, il en a pris à arriver à la puberté. On a échappé à beaucoup de choses, parce qu'il faut savoir que dans les troubles autistiques, il y a le trouble du sommeil, l'alimentation, il y a plein de choses comme ça.
Ah, d'accord.
Des troubles associés.
Ça commence comme ça, hein. C'est comme ça qu'on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Nous, il ne dormait pas, il n'avait pas du tout...
À quel âge ?
Tout petit déjà, 2-3 heures, 2-3 ans, il était vraiment un gros problème. Il a fallu le prendre en charge, mais sans médicaments, et l'alimentation, c'était pareil. Par contre, moi personnellement, j'ai été confrontée aux médicaments, arrivée à la puberté, quand il y a eu d'un ange, il est passé à un ado, quoi, il ne savait pas dire non, on le stimulait beaucoup, il y travaillait beaucoup, il ne savait pas dire non, je ne veux pas, il n'était pas motivé, comme tous les ados, et donc il a basculé un petit peu dans la violence. Donc ça a été terrible, ça a été une période très difficile et pour moi et pour tout, quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a dû mettre un traitement en place qui était le Risperdal, qui lui a fait prendre tout simplement 20 kilos, quoi.
Ah, c'est ça. Et le Risperdal qui permet de calmer.
Les troubles du comportement qu'on donne aussi pour les personnes âgées, on, à un moment donné.
Et dont on a abusé, comme me raconte Sandrine Bonner dans un film magnifique dédié à sa sœur. Oui. Elle s'appelait Sabine. Elle a été complètement droguée. Elle a pris 40 kilos aussi, la pauvre, dans un institut psychiatrique quasiment. Une prise en charge compliquée. Aujourd'hui, le petit Samy, votre fils de 13 ans, Églantine, il a un traitement, lui, pour se calmer justement aussi ?
Il a un traitement aussi. Je déplore qu'on soit obligé parfois de recourir à des neuroleptiques, des insulines. On rejette tous ça parce qu'on n'en a pas envie. On voudrait qu'on trouve des solutions pour nos enfants qui soient plus saines.
Oui.
Mais je me mets à la place des médecins. On arrive, on est complètement épuisé, on est à bout, on est en larmes. On ne sait plus quoi faire d'un enfant qui s'automutile, qui crie ou qui ne dort jamais. Eh bien, parfois, on nous conseille quelque chose qui va le calmer, apaiser un peu ses humeurs. Et je reconnais que de temps en temps, ça permet aussi de souffler et de pouvoir à nouveau... Je ne dure jamais très longtemps ce genre de traitement, je déteste. Mais c'est vrai que parfois, je reconnais que ça lui fait du bien. Et j'en suis revenue à me dire, est-ce que je le laisse souffrir dans un mal-être permanent ou est-ce qu'un anxiolytique lui fait du bien et me permet ensuite d'avoir des interactions avec lui ?
Oui.
Voilà, c'est un moindre mal peut-être par période, c'est pas évident.
Pour votre fils, comment ça se passe avant une petite pause, Florent Chappel ?
Moi, il a un deuxième trouble à côté du trouble autistique. Il a ce qu'on appelle un trouble positionnel avec provocation. Donc c'est aussi assez dur à vivre. Ça veut dire que l'enfant dit bloque sur tout. D'accord. Dès que vous lui demandez quelque chose, il vous dit non.
Donc frustration.
Une frustration extrêmement forte. Il veut toujours plus. Enfin, c'est assez compliqué. Lui aussi, à 13 ans, il commence à devenir ado et ça devient dur. Donc on a aussi un tout petit traitement, mais un traitement qui normalement est un traitement qu'on donne dans la, je crois, schizophrénie. Bon, c'est de la responsabilité de l'hôpital de Bray et ils le font très bien. Ça l'a soulagé. On arrêtera, j'espère, un jour, voilà. Mais ne commencez pas à parler de traitement. Les traitements, ils ne sont pas pour l'autisme. On ne soigne pas l'autisme. Voilà, stop.
On ne guérit pas
l'autisme. En revanche, si l'enfant a un trouble associé, un AVC ou je ne sais quoi, il faut le soigner de son AVC.
C'est important, c'est pour répondre aussi à cette enquête du Parisien qui fait débat.
Donc il faut absolument faire attention à ce qu'on dit. Et oui, il est nécessaire de dire aux parents, faites attention. Mais si derrière, il n'y a pas un effort de recherche absolument colossal, je dirais équivalent à celui qu'il y a eu sur le sida. Parce que dans le sida, regardez, 35 millions de personnes dans le monde, nous, 70 millions de personnes autistes. Ça mériterait qu'on dépense plus de 50 000 euros. Il y a 3 milliards d'euros dans le sida. Non, mais 50 000 euros, les dernières... Enfin, je veux dire, on ne dépense pas d'argent. Oui. Et pourtant, si demain, on trouve des choses qui soulagent les symptômes, qui permettent... on voit ce que fait la Fondation Fondamentale, c'est absolument colossal. Ils ont découvert l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone de la relation. En donnant de l'ocytocine en spray, ils ont réussi
la maman et le bébé.
Voilà. Ils ont réussi à créer une relation forte entre l'enfant autiste et son entourage. Bon, aujourd'hui, c'est pas commercialisé, il faut pas en prendre sous le manteau. Attention, attention, attention. Mais c'est génial que des gens se penchent sur ce genre de choses. Donc si un jour on arrive à recréer de la relation, si un jour on arrive à faire baisser les troubles du comportement, ben voilà, donc moi je plaide pour de la recherche. Mais oui, attention aux charlatans. Mais ne mettons pas tout dans le même sac.
Mais vous avez raison de dire les choses clairement. Florent Chapelle, Eglantine Emeillé, Jamila Saïdi, vous êtes avec nous. On va recueillir beaucoup de témoignages. Ils nous appellent Lucie, Isabelle, Daniel, Hervé, Pablo qui veulent réagir au 39-21. On va parler de l'intégration dans les structures spécialisées, de ce que vous faites, vous par exemple, avec vos associations Eglantine, Un pas vers la vie, avec cette école à Montreuil qui accueille aujourd'hui 60 personnes autistes, pas que des enfants, parce qu'il y a aussi ce système débrouillardiste qui est formidable, qui est humain surtout et qui est plus adapté. A tout de suite sur Europe 1. Question Facebook du jour, considérez-vous que les personnes autistes sont suffisamment intégrées dans notre société ? Non, à 94%. Et ce commentaire de Marie-France, à quand une cagnotte pour aider à construire des centres spécialisés pour les autistes ? Il n'y a presque pas de structure pour les accueillir, c'est un scandale social.
Elle nous le dira, Lucie, elle est enseignante en maternelle à Tourcoing, elle va réagir dans un instant au 39-21. Nous avons Hervé avec nous au standard, bonjour Hervé.
Oui, bonjour.
Et merci d'être à l'écoute de cette émission avec nos invités qui vont réagir à vos propos et à votre témoignage, car vous nous appelez de Château-Gombert. Où est Château-Gombert ? Où se trouve cette commune ?
Bon, c'est au nord de Marseille.
Au nord de Marseille. Vous dirigez un établissement spécialisé pour le handicap et vous recevez aussi des personnes autistes, Hervé ?
Oui, absolument. Des adultes autistes, enfin, diagnostiqués autistes ou ayant un syndrome autistique,
oui, comme ils disent aussi. Et vous avez le sentiment d'intégrer au mieux, justement, ces personnes ?
Oui, c'est vrai que depuis quelques années, le regard sur l'autisme, les outils professionnels ont énormément évolué. Mais ce que je voulais, et le travail des associations est formidable parce que c'est elles qui portent véritablement ce combat en avant. Mmh. Et ce que je voulais souligner, ce que je retiens de mon expérience dans le domaine du handicap, c'est que finalement, l'autisme interroge vraiment toute la société sur la façon dont elle conçoit la place de chacun. Mmh. Et il me semble que s'il y avait une grande leçon à tirer de tout ce processus et de toute cette dynamique, c'est de nous rendre compte que finalement les catégories dans lesquelles nous vivons ne laissent pas d'autre place que à des personnes qui ont un besoin d'attention, d'écoute, de relations vraiment différentes, quoi.
Oui, je crois que c'est
Je suis stupéfait qu'en Europe, et c'est ça qui serait intéressant à un moment donné aussi d'intégrer dans le diagnostic. C'est que nos enfants, les enfants, les adultes autistes, sont pris en charge dans une société dont les clivages, dont les catégories, dont les communications verticales sont tellement importantes que finalement, on ne s'intéresse qu'aux symptômes en voulant tuer le symptôme, alors que le symptôme nous dit, entre autres aussi, réinterroger l'environnement dans lequel vous nous insérez.
Hervé, je crois que vous êtes Alexandra.
Et de ça, me semble-t'il, on en est incapable.
Alexandra est en phase avec vous, elle nous a écrit de Saint-Leu-la-Forêt, maman de deux garçons autistes de 11 et 12 ans, qui ont aussi un haut potentiel. Du coup, les établissements scolaires ont beaucoup de mal à comprendre leur parcours et leurs caractéristiques. Avant de vous libérer, mais je vais prolonger un peu cette émission si vous voulez bien, parce qu'on a énormément de témoignages. Eglantine Emeillé, l'association Un pas vers la vie que vous avez fondée, a créé une école à Montreuil. Vous admettez aujourd'hui une soixantaine d'enfants, et pas que des enfants.
Oui, on avait effectivement commencé avec une
une première école et puis j'ai une maman formidable dans l'association qui s'appelle Céline Benabou qui a pris le relais et qui aujourd'hui dirige cette école de 60 enfants. On a des tout petits. En général, ils arrivent vers l'âge de 6 ans parce que jusqu'à l'âge de 6 ans, on y arrive et la maternelle, ça se passe mieux. Et puis, ben, nos enfants grandissent avec nous. Donc, on a qui commencent à être adultes, comme par exemple Tariq. Et on avance avec eux sur la prise en charge qu'on met au point. Bien sûr qu'on se pose beaucoup de questions, mais on fait une école dans laquelle on assure du 1 pour 1. Donc, chaque enfant est pris individuellement. On a des psychologues. Et puis, on a mis en place des petites classes pour ceux qu'on peut scolariser. Et donc, on leur apprend dans des petites unités où ils sont 4, 5. On leur apprend les maths, l'histoire, l'anglais. Et ça fonctionne plutôt bien avec une psychologue et une AVS. On aimerait beaucoup ensuite pouvoir avoir des entreprises, par exemple, qui acceptent de les prendre en stage pour voir travailler un jour. Et puis, on se pose maintenant la question, évidemment, de qu'est-ce qu'ils vont devenir une fois adultes. Ce sont des autistes qui ne sont pas assez autonomes encore pour vivre seuls, qui peut-être ne le seront jamais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on est en train de travailler sur des projets. On rêve tous de ces habitats inclusifs. Maintenant, on rêve de petites maisons dans lesquelles ils pourront vivre en colocation avec de l'aide.
Ouais. Une fois qu'ils auront passé le cap des 18 ou 20 ans et qu'ils quitteront ces lieux un peu plus scolaires, comment trouver des structures pour eux? C'est le cas en Suède, vous disiez, Florent Chappelle,
oui,
avant de vous libérer.
C'est le cas dans d'autres pays. Ils ont pensé
des petits habitats
partagés. Parce qu'ils ont commencé déjà à inclure très très tôt. Et donc, l'école en Italie, c'est 100% des enfants qui vont à l'école. Nous, c'est 80% qui n'y vont pas. Donc, vous voyez la différence. Et après, ces enfants qui, à 18 ans, parlent et écrivent, sont encore handicapés pour la plupart. Hein, ont tous progressé, mais sont encore handicapés. Rentrent dans, font des petits jobs ou rentrent dans effectivement, des habitats inclusifs où ils sont plusieurs avec un éducateur qui les tue. Il y a plein de modèles très innovants. Tout le monde a très envie de...
Notre retard.
Oui, c'est ça, pour combler notre retard. Et ça, il faut effectivement que la plateforme les promeut.
Merci beaucoup. On va parler de cette plateforme Autisme Info Service régulièrement inaugurée aujourd'hui. Florent Chappelle, vous la co-présidez. Merci, je vous libère. Et si vous voulez bien, Églantine Émeillé, je vous garde un petit peu. Jamila Saïdi, votre employeur nous autorise?
Absolument. Merci Sabine. Je vous avais dit que j'irais. Merci.
Sabine de
Air France. Ma responsable qui m'a donné l'autorisation de venir et de rester un petit
peu. C'est adorable. Restez un peu avec nous. On fait une petite pause.
9h-11h. Wendy Bouchard sur Europe 1.
Un petit point météo avec vous Laurent Cabrol parce que le temps s'est complètement embrouillé après le soleil, c'est cataclysmique là.
Effectivement Wendy, le temps est à l'appui sur une grande moitié de la France avec du vent et ce vent vient tantôt de l'ouest, tantôt du sud. C'est les vents d'ouest qui vont l'emporter. Ça signifie que les orages, les pluies, les averses, les giboulées vont se multiplier à la fois aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Le tout est de savoir maintenant si après la fin de la semaine nous allons avoir encore ce type de temps. A priori oui, si l'on en croit certains modèles et je pense que ces modèles sont plus fiables que les autres. Donc ça va durer.
Merci Laurent, voici l'info Julie.
Il est 10h sur Europe 1. Marion Calais, c'est à vous.
Le déplacement aujourd'hui d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, à Lerme, près de Toulouse, là où 5 résidents d'un EHPAD sont morts dans la nuit de dimanche à lundi. Des analyses sont en cours, des autopsies devraient être rapidement pratiquées. Une enquête pour homicides involontaires et blessures involontaires a été ouverte. Le jugement ne sera pas connu avant plusieurs semaines. Le procès de l'arbitrage Tapie, Crédit Lyonnais, plus de 400 millions d'euros versés à l'homme d'affaires, décrit lors des réquisitions hier soir comme le co-organisateur d'un arbitrage truqué. 50 prisons fermes ont été demandées à l'encontre de Bernard Tapie. Il se dit disponible et volontaire. Les propos d'Emmanuel Macron dans Corse Matin, à 2 jours de son déplacement sur l'île de Beauté dans le cadre du Grand Débat. Le chef de l'État se dit volontaire donc pour échanger alors que plusieurs élus locaux, notamment le président du Conseil exécutif Corse, Gilles Sémioni, ont annoncé qu'il ne participerait pas aux discussions. Une sortie du Royaume-Uni sans accord devient chaque jour plus probable. C'est ce que dit le négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, au lendemain des nouveau refus des députés britanniques. Ils ont à nouveau rejeté les alternatives proposées. Une réunion de crise doit se tenir aujourd'hui autour de Theresa May. En Nouvelle-Zélande, plus de 2 semaines après les attentats de Christchurch, l'adoption très large d'une loi sur les armes avec interdiction des modèles semi-automatiques de type militaire. Adoption en première lecture, un seul élu a voté contre. Et puis le début ce soir des demi-finales de la Coupe de France à 21h10. Lyon face à Rennes au Parc OL. Hier en Ligue 1, victoire ma chère Julie de Saint-Etienne 2-1 contre Nîmes. Les Stéphanois mais désormais 4e du championnat.
Et ben voilà.
Europe 1, il est 10h02.
Europe 1. 9h, 11h. Wendy Bouchard.
On prolonge prolonge quelques instants cette émission sur l'autisme en cette journée mondiale de sensibilisation, car vos témoignages sont si nombreux, je n'aimerais qu'en donner quelques-uns, que vous ne soyez pas frustrés, grâce à l'employeur de Jamila Saïdi qui lui permet de rester encore ici. Je vous remercie d'être là, vous êtes maman de Tariq et vous travaillez. Comment vous partagez votre temps aujourd'hui? Vous travaillez à temps plein, à mi-temps?
Absolument pas, j'ai fait tous les temps partiels qui puissent exister grâce à vous. Grâce à mon employeur, j'ai dû même m'arrêter dès le départ parce qu'il n'y avait rien. Hein. La transition école et structure m'a obligé à m'arrêter, prendre un congé parental.
Et je précise parce que Jamila est une mère seule avec ses enfants.
Oui, en plus, histoire de rajouter un petit peu. Mais on est nombreuses comme ça aussi, donc c'est important de le dire. Et oui, parce que souvent dans un couple, y en a un des deux qui arrête de travailler, mais quand on est tout seul, on n'a pas le choix. Et là, si on n'a pas la chance d'avoir un employeur comme j'ai eu, comme j'ai moi.
Comme
en
France.
Comme en France, si vous voulez, on peut les citer. Et depuis pas mal d'années maintenant, et dès le départ, il y a une compréhension de ma hiérarchie formidable.
Vous faites quoi, chère France ?
Je suis au service financier, en comptabilité client. Et
ils ont adapté votre temps aussi à votre situation, et ça, c'est tout à leur honneur.
Donc à 70% qui n'existe nulle part ailleurs, et à la carte, quoi.
Voilà. Alors, on est avec Lucie de Tourcoing dans un petit instant, juste avant de vous libérer. Florent Chapelle, rappelez-nous ce qu'on peut trouver sur cette plateforme Autisme Info Service, qui est inaugurée depuis une heure maintenant, et dont vous parlez sur l'antenne d'Europe 1.
Alors, donc c'est une ligne téléphonique ouverte de 9h à 13h, 5 jours par semaine. L'après-midi servira aux répondants à traiter les questions un peu complexes. Mmh. Donc, quand une famille appelle et pose la question de l'emploi, l'employabilité de son fils ou l'emploi pour elle-même, elle aura le conseil d'une répondante formée et derrière une équipe de 16 experts qui pourront au cas par cas répondre par écrit à cette maman, à ce papa sur la possibilité d'avoir un temps partiel, un truc aménagé, comment s'arrêter, comment continuer à toucher une indemnité, enfin tout cela sont des angoisses parce que finalement l'autisme touche tout, il vous touche au départ avec le diagnostic et puis après il vous touche sur la question de scolarisation, d'employabilité, de logement, comment même après son départ, le jour où on décède, comment on lègue à ses enfants.
Bien sûr, ça fait partie des angoisses des parents, évidemment.
Et voilà, et donc il y a autant de questions que les gens pourront poser, mais aussi il y a un chat qui est ouvert pour les personnes Asperger notamment, qui préfèrent parfois avoir un outil de ce type pour pouvoir dialoguer avec la plateforme, et bien sûr par mail. Voilà, et je les invite à aller sur autismeinfoservice.fr, tout ça au singulier. La plateforme est ouverte et on est là pour vous servir.
Autisme Info Service, pour répondre comme par exemple à Isabelle qui nous écrit de Tours, qui a un fils Asperger, diagnostiqué seulement à 12 ans. Aujourd'hui, elle dit, ma fille a dans sa classe un enfant qu'elle pense Asperger, de par l'expérience qu'elle a à la maison. Je pense qu'il faut sensibiliser les enseignants, les pédopsychiatres aussi à repérer ces cas. Je vous libère aussi, Eglantine Émélier, mais pour répondre à Isabelle et à ses errances thérapeutiques ou errances de diagnostic, c'est le cas souvent avec les enfants Asperger, justement, qui se fondent un peu dans le groupe.
Surtout tout à l'heure, on a entendu le médecin expliquer, même pour les filles Asperger, les filles ont une notion quand même, elles arrivent mieux à trouver des stratégies d'adaptation. Donc pendant des années, elles peuvent découvrir très très tardivement qu'elles sont autistes.
C'est-à-dire quand on est adulte, même adulte?
Bien sûr, il y a des adultes, je pense, peut-être dans votre entourage, vous n'avez jamais suspecté qu'ils étaient autistes Asperger, eux-mêmes ne le savent pas. Mais parfois, on trouve des adultes qui on trouve complexés, extrêmement timides, pas très à l'aise dans certaines situations, mais qui arrivent à donner le change dans la société en général.
Votre association Un Pas Vers la Vie, vous en êtes présidente, Voleur de brosse à dents, c'est chez Robert Laffont, votre histoire, Eglantine Émélier, et puis pour ce qui est des réjouissances télé, on vous retrouve le 15 avril avec Jamy Gourmaud sur France 3, ça va être sympa, vous vous envolez dans l'espace, c'est ça?
Exactement, encore un autre univers.
Merci beaucoup, nous sommes avec Lucie au 3921, bonjour Lucie.
Bonjour.
Merci beaucoup de prendre la parole parce que votre témoignage est très intéressant, vous êtes enseignante en maternelle et vous nous appelez de Tourcoing, on vous écoute Lucie.
C'est ça. Et du coup, c'est vrai que l'émission m'interpelle beaucoup et m'intéresse forcément parce qu'on y est confronté. Nous, en classe, en maternelle, on est le premier pas de scolarisation pour ces enfants. Et c'est vrai que c'est une vraie richesse quand, pour les enseignants, pour les enfants atteints d'autisme et pour les autres élèves. Mais quand on nous donne les moyens de les accueillir. Parce que c'est vrai que nous, très souvent, ces enfants arrivent à l'école.
Oui.
Ils arrivent à l'école comme tous les autres enfants. Et nous, enseignants, on n'est absolument pas formés à accueillir ces enfants avec ces difficultés-là. Et on se retrouve très souvent complètement démunis. Parce que avec donc des parents qui, et c'est tout à fait légitime, souhaitent scolariser leurs enfants, ce qui est normal, c'est un droit. Donc nous, on les accueille, mais nous ne sommes pas formés. On a tout le reste de la classe à gérer. et on se retrouve seul.
Enfin, et vous demandez, manifestement, vous êtes en demande d'une formation, d'une pédagogie aussi pour mieux intégrer ces enfants, parce que c'est fondamental pour la suite éventuellement de leur scolarité. Vous avez eu affaire vous-même dans votre classe à Tourcoing à un enfant autiste, Lucie ?
Oui. Alors moi, j'en ai déjà eu plusieurs. Du coup, j'ai eu les différents profils. J'ai eu des enfants qui sont arrivés en maternelle, parce que moi j'ai une classe de petite section, qui sont arrivés, qui avaient déjà été diagnostiqués, donc qui sont arrivés avec une AVS, une aide de vie scolaire, à temps partiel. Oui. Donc dans ces cas-là, ça se passe très bien, parce qu'ils ont cette aide humaine qui permet aussi de les gérer en cas de crise, quand parce qu'il y a des fois, voilà, ça fait, ils arrivent dans une classe de 28 petits, c'est aussi une étape hein, pour eux. Voilà, donc quand on a une aide humaine, généralement, ça se passe bien.
Lucie, et j'aurais que Jamila vous réponde sur le sujet, parce que Tariq est allé à l'école maternelle. C'était en région parisienne également.
Oui, absolument, dans Val-de-Marne.
Donc maintenant, il y a une quinzaine d'années.
C'est ça. Oui. Je sais que c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais à l'époque, moi, je dirais qu'on a été carrément un petit peu, entre guillemets, victime, parce que l'école s'est sentie exactement, comme le disait l'enseignante, démunie, pas capable de... pas formée pour pouvoir accueillir un enfant autiste. Et de l'autre côté, on avait aussi la pression un petit peu, enfin moi personnellement, du côté médical qui disait qu'au contraire, c'était bien. Donc à un moment donné, les parents, on est aussi otage. Après, la chance qu'on a eue, nous, c'est d'avoir eu une AVS, effectivement. Il faut juste savoir que quelquefois, ils ne sont pas formés du tout à l'autisme non plus. Donc c'est juste pour parer aux troubles du comportement.
D'accord.
Et qu'effectivement, ça apporte une aide. Donc moi, c'est le témoignage que je peux apporter. À chaque fois, j'ai pu avoir une AVS et il a pu faire donc ces trois petites années de maternité.
Merci, voilà, on espère que la sensibilisation aussi pour les personnels enseignants sera au cœur des prochaines réflexions, peut-être du plan autisme du gouvernement. Merci Lucie. Juste après la pause, Jamila, je voudrais vous faire réagir au témoignage de Bernard Faucheux. Il est vice-président de l'association Les Maisonnées en Indre-et-Loire. Ce sont des petites structures qu'ils ont montées entre parents justement pour accueillir les adultes autistes, parce que vous imaginez le futur de Tariq.
C'est ça.
Hein, et évidemment, il faut y penser dans ces petite formule d'habitat partagé. On va y venir juste après la pause, encore quelques minutes ensemble.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur l'autisme. On prolonge un petit peu l'émission avec Wendy Bouchard et son invité. Mieux en parler, mieux comprendre l'autisme à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à ce trouble.
Car nous avons énormément de témoignages et on va donner la parole à Bernard dans un instant. Nous sommes avec Jamila Saïdi, membre de l'association Un Pas Vers la Vie. Vous êtes maman de Tariq, il a 19 ans Tariq. Il vit chez vous, à la maison. Et puis la journée, il va à l'école à Montreuil, en région parisienne. École qu'a créée l'association d'Églantine et Meillet dont on parlait à l'instant. Il ne va pas y aller à l'école toute sa vie. Donc il faudra réfléchir, même si vous adorez, et que voilà, tant mieux, parce que ce sont des structures qui permettent d'accueillir manifestement sans limite d'âge. Mais il faudra peut-être penser à une structure pour l'après. J'imagine que c'est votre préoccupation quotidienne, entre autres.
Absolument, si ce n'est qu'en plus, ça a un coût, hein, c'est très très cher. Donc,
combien
je
ça vous
pourrais
coûte
pas...
par mois?
Ben, c'est un coût de 2 500, voire 3 000 euros. Ça peut vite grimper à 3 000 euros, hein, parce que c'est tout simplement les salaires des intervenants qu'on emploie
bien
pour
sûr,
nos enfants, supervisés par un psychologue.
Vous êtes aidé à quelle hauteur sur les 2 500, 3 000 euros?
On est aidé en fonction du nombre d'heures qu'on utilise. Moi, c'est la prestation de compensation du handicap qui s'appelle PCH et qui est évaluée sur un nombre d'heures, un volume d'heures qu'on vous octroie au mois, et en sachant que si c'est l'emploi direct, c'est 13,51 €, en sachant que nous les intervenants, c'est minimum 14 euros qu'on les paye.
D'accord.
Et les charges URSSAF sont en plus. Donc on est des mini-employeurs en fin de compte.
Oui, c'est ça.
On gère pas mal de choses. Et on est un peu perdu aussi en tant que parent. Moi, ça fait pas mal d'années qu'on le fait. Mais ça a un coût énorme. On nous donne une compensation qui ne suffit pas.
C'est-à-dire, vous payez encore la moitié, c'est ça, à peu près, le reste à charge?
Largement, oui, très largement. Hein, oui. Sur une 2 500, 3 000, moi, j'ai quand même 1 500 euros qui restent à ma charge.
Oui.
Et pour lesquels je dois à chaque fois trouver une solution.
Et ça sera la même chose pour trouver une structure qualifiée de structure pour adultes?
Idéalement, arrivé à 20 ans, on doit commencer à faire nos fameux dossiers pour les 20 ans, parce qu'ils sont considérés jeunes adultes protégés aussi.
Oui.
Et du coup, ils basculent vraiment dans le monde adulte. Et là, c'est encore autre chose. Ce que j'espère, moi, mais je rêve, mais il faut quand même faire le dossier, c'est une orientation, bien sûr, trouver une structure pour adultes, pour mon fils. Oui. Ça m'éviterait aussi d'avoir tous ces frais.
Et si possible, près de chez vous.
Et bien sûr, parce que moi, la Belgique, je ne veux même plus en entendre parler.
Il faut expliquer qu'il y a beaucoup de familles qui sont obligées d'exiler, c'est un terme absolument, qui est repris, leurs enfants, les adultes en Belgique.
Voilà, ouais. On leur propose. Moi, j'ai entendu dire que quelquefois, ils n'avaient pas le choix aussi.
Parce qu'il n'y a pas assez de place en France ?
Ben, parce qu'il n'y en a pas. Et que c'est la France qui finance en plus.
Et que c'est moins cher en Belgique.
En tout cas, ils ont les moyens de financer les prises en charge d'adultes autistes en Belgique. C'est ça. Ce qui est tout simplement immoral et injuste.
Et absurde. Et Bernard Faucheux, vous êtes avec nous, vice-président de l'association Les Maisonnées en Indre-et-Loire. C'est contre justement cet exil belge, notamment, que vous vous battez. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Vous avez créé les structures, vous allez nous en parler, vous les avez créées entre parents. Ça, c'est un beau modèle. Oui, vous avez choisi votre modèle, justement.
Oui, je ne suis pas le créateur. Hein. Le créateur est Monsieur Rock. Oui. Moi, je suis vice-président depuis quelques années. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est les parents qui se sont pris en charge et ont créé cette structure en 2006. En réponse, justement, à la non-réponse de la prise en charge de nos enfants qui étaient devenus adultes.
C'est ça. Alors, sur quel modèle s'établissent ces petites maisons ?
Alors, ce sont des maisonnées, oui. Des maisonnées où il y a entre 7 et 10 résidents mm-hmm. qui sont pris en charge. En fait, ils sont à demeure, ils sont chez eux, et c'est une équipe d'intervenants qui vient les accompagner au jour le jour et la nuit.
D'accord.
Voilà.
Hein. Et combien sont-ils aujourd'hui ? À être
alors, ils sont 55 résidents.
Oui. À partir de quel âge ? De 20 ans, c'est ça ?
Alors, oui, c'est la prise en charge, normalement, est à partir de 20 ans. Aujourd'hui, le plus jeune a 27 ans et le plus vieux, 60.
Et ça se passe bien ?
Ça se passe très, très bien. Nous avons une liste d'attente de 45 personnes qui frappent à la porte pour pouvoir rentrer dans notre structure. Mm-hmm. Notre philosophie, elle est la suivante, c'est... elle est axée sur deux axes. Hein. C'est-à-dire, la première, c'est des ateliers thérapeutiques. C'est-à-dire que nos enfants n'ont pas d'orientation pour pouvoir travailler dans des ateliers protégés ou dans des DESAT. Et donc, on a mis en place des ateliers thérapeutiques qui permettent d'avoir une activité quotidienne de travail, occupationnelle, dans lequel ils produisent des légumes autour de l'espace vert, enfin, un tas d'objets qui sont après vendus dans une petite boutique qu'on a mis en place dans la commune d'Azel-Rideau, ce qui permet une inclusion de toutes ces personnes qui sont atteintes d'autisme dans la vie communale et dans la vie sociale de la commune.
Ouais, c'est un beau modèle qui vous fait réagir, Jamila Saïdi. Absolument. Hein, vous projetez un peu.
Bien sûr, on rêverait d'avoir des choses comme ça pour nos enfants plus tard, en sachant qu'il faut peut-être quand même une certaine autonomie, mais en tous les cas, il y a l'environnement qu'il faut au niveau des professionnels et c'est rassurant, surtout s'ils sont formés à l'autisme, qui est un outil de communication. Pour moi, ça me paraît juste le minimum pour les jeunes qui ne parlent pas, parce que faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas l'accès au langage. Oui. Et c'est juste le minimum. C'est là où moi, j'insiste pour l'orientation.
Voilà, ces maisonnées qui ont été pensées depuis 2006, les maisonnées en Indre-et-Loire, avec une cinquantaine de personnes qui attendent et une cinquantaine de résidents aujourd'hui. Bernard Faucheux, merci de nous avoir parlé de cette association et de ces structures aussi, car il y en a beaucoup du genre associatif, créé entre humains et parental. Parce que c'est ce qui vous sauve, c'est cette solidarité aussi et cette compréhension, Jamila, pour terminer.
Oui. Absolument. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé avec Églantine, d'avoir aussi ce soutien-là, c'est-à-dire entre parents, de pouvoir en plus échanger, se retrouver et dire un petit peu notre ras-le-bol, notre fatigue. Ça a été absolument deux années, vraiment, je le redis à chaque fois parce qu'on a été soutenus, entendus. J'ai continué avec, c'est là où j'ai rencontré Florent à Béaba, on a eu aussi exactement les mêmes choses avec des formations, des choses comme ça, donc c'est essentiel pour les parents, pour le bien-être de nos enfants et pour pouvoir durer et continuer. C'est
et
ça,
pour
c'est
envisager
objectif.
La suite le plus sereinement possible.
C'est ça.
Voilà. On pense à Tariq, on pense à Galane, on pense à Samy, à tous ces bouts de chou, parce que les parents ont été très nombreux à nous appeler aujourd'hui. Vos témoignages vont tous dans le même sens. Pas assez d'intégration, pas assez de sensibilisation, pas assez de formation des enseignants, encore des errances diagnostiques et thérapeutiques. Donc, ces journées aussi servent à ça. Et on a appris beaucoup de choses grâce à vous. Je vous remercie d'être resté un petit peu plus longtemps avec nous, Jamila Saïdi. Et puis, nous conversions là, pendant que vous parlez, avec Laurent Guimier, qui est le directeur de cette station et qui qui commencent à imaginer des stages pour autistes à Europe 1. Ça serait formidable.
Ça serait super.
Et on va réfléchir. Réfléchir de manière beaucoup plus concrète à la question. Et croyez-nous, on va le faire. Merci beaucoup, Jamila.
Merci à vous de nous avoir invités.
Et à tout de suite pour parler des robots, ma chère Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.